soit le power point, tu n'utilises que la voix qui est un petit peu éloignée. Christ est ressuscité. Christus ist auferstanden.
Markus ist auferstanden.
Le véritable dialogue est un entre Dieu. Selon saint Jean Chrysostome, Dieu est toujours en dialogue personnel avec les êtres humains. Dieu parle toujours à travers les prophètes et les apôtres et les saints. Le Verbe de Dieu n'a de sens pour nous que lorsque nous lui répondons par la foi. Et les paroles, elles aussi, sont plus fécondes dans un dialogue que dans un monologue. Le dialogue promeut la connaissance et la science, révèle les vérités et les émotions, abolit la peur et le préjugé, cultive les liens et élargit les horizons. Le dialogue enrichit, car quiconque refuse le dialogue demeure appauvri. Ce sont les paroles que le patriarche Bartholomée de Constantinople a prononcé il y a quelques jours à Fribourg dans une conférence dont le titre était « Le dialogue comme clé de la théologie contemporaine ». Je ne cite pas ces mots pour faire référence à une autorité, ce n'est pas mon habitude, mais ces mots donnent sens à ce que je vais vous dire et je suis très convaincu que le dialogue est le lieu naturel où les chrétiens se parlent, parlent de Dieu, écoutent Dieu leur parler et construisent leur propre réponse. Vous savez bien vous-même à la Société biblique suisse, puisque tout votre travail consiste à porter la parole de Dieu aux hommes et aux femmes de ce temps, afin de provoquer chez eux une parole personnelle en réponse à la parole de Dieu. Pour parler du dialogue œcuménique, je pars d'un principe initial. Le travail pour l'unité des chrétiens, pour l'unité entre les églises, ne peut se faire qu'en parallèle, en synergie, avec le travail de chaque église pour sa propre unité. Et dit autrement, toute croissance de l'unité dans une église augmente l'unité de toute l'église du Christ. Et dit négativement, toute augmentation de la division dans une église déchire un peu plus l'unité de l'église du Christ. Et c'est à partir de là que je vais essayer de traiter deux plans. D'abord, l'unité à l'intérieur de l'église orthodoxe, entre les églises orthodoxes, et ensuite, l'unité avec les autres églises et communautés chrétiennes. Donc, voyons d'abord l'unité à l'intérieur de l'église et pourquoi l'on peut parler de l'église orthodoxe et des églises orthodoxes. Selon la tradition ancienne, le lieu essentiel de l'unité de l'église et l'église locale, c'est-à-dire la communauté réunie autour de l'évêque qui préside à l'Eucharistie. Là où est célébrée l'Eucharistie du Seigneur, là est l'église, là où l'évêque l'Église locale n'est pas une partie de l'Église, mais la plénitude de l'Église ici et là, dans un temps et dans un lieu. Et l'évêque est le garant et le serviteur de l'unité de l'Église, non seulement dans son Église locale, mais aussi en lien, en solidarité avec toutes les autres églises locales. Je cite cette formule de Cyprien de Carthage, « L'épiscopat est un, et chaque évêque en tient une partie en indivisuel. » Dans le texte, c'est « in solidum », hein, en solidarité. C'est le principe de la conciliarité ou de la synodalité. Premier niveau. Mais l'histoire a créé un autre niveau d'unité. Pendant les premiers siècles de l'Église, l'extension de l'Évangile s'est faite à partir de grands centres, des villes qui jouaient un rôle important dans l'Empire romain qui était devenu chrétien. On pense à Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Constantinople, et ainsi est née la patarchie, c'est-à-dire de l'autorité institutionnelle de patriarche autour de 5 villes principales. Aucune de ces villes n'était le siège d'une autorité centrale. Mais les patriarches reconnaissaient à l'évêque de Rome un statut de primus inter pares, de premier parmi les époux. Et cela pour une double raison. Rome a été longtemps la capitale de l'Empire et Rome était le lieu où Pierre et Paul avaient rendu témoignage. Alors il y a la base de la patriarchie, un principe qui est autant politique qu'ecclésial. Plus tard, là on est encore à un autre niveau, les chrétiens de Rome vont revendiquer pour leur Église une autorité universelle, la primauté par-dessus les évêques locaux et par-dessus les chefs des autres églises de la patriarchie. L'Église orthodoxe a toujours refusé ce troisième niveau universel. Elle accepta donc de n'avoir pas de centre unique de décision. Bon, les Églises orthodoxes, on l'a vu tout à l'heure avec ce que le père Stanko a montré, à ce niveau universel, la seule unité institutionnelle, c'est le Concile général qui réunit les 14 églises autocéphales. Or, c'est là que commencent les difficultés pour l'Église orthodoxe. C'est quoi ? Des développements historiques aboutissent à une fragmentation de l'Église. Selon le principe politique de la patriarchie, au fur et à mesure que chaque nation orthodoxe gagne son indépendance et forme un État, elle revendique d'avoir sa propre Église. Cela s'est produit surtout au XIXe siècle, au siècle des nationalités, comme on dit en français, au cours du démembrement de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois. Le patriarcat de Moscou était déjà né en 1589, et voici que naissent ou renaissent les patriarcats de Serbie, Bulgarie, Roumanie. Et notez la différence, au début chaque patriarcat portait le nom d'une ville, et maintenant il porte le nom d'une nation. On parle donc de l'Église orthodoxe ou des Églises orthodoxes. Et le pluriel insiste sur la particularité. L'Église orthodoxe n'a pas de centre institutionnel commun. L'histoire a créé 14 église autocéphale, chacune ayant sa propre tête, c'est ce que veut dire le mot autocéphale, sa propre autorité institutionnelle. Malgré la naissance de ces églises autocéphales diverses, malgré les divergences qui apparaissent souvent entre elles, l'unité de l'Église orthodoxe est une véritable unité. C'est une réalité. Et ce qui unit ces 14 églises en une église, c'est l'essentiel de la foi. Ce que je vais dire reprend un tout petit peu ce que le père Stambo a dit tout à l'heure. C'est d'abord l'attachement à la Sainte Écriture et à la tradition de l'Église. La confession de foi est les dogmes des conciles œcuméniques. L'enseignement des pères de l'Église, la liturgie et les sacrements, la piété personnelle. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien le mot dit Frömmigkeit. Je trouve ce mot plus beau que piété. C'est juste, hein? Frömmigkeit, c'est la piété. Oui. Bon. L'enseignement des pères de l'Église, donc la vénération de la Mère de Dieu et des saints, la vie monastique, la beauté des icônes, de l'architecture et du chant liturgique, une conception commune de la vie chrétienne avec les carêmes, le jeûne, la règle de prière. On peut le dire avec conviction, on retrouve tout cela dans n'importe quelle paroisse orthodoxe. Et c'est cela qui constitue d'abord la communion orthodoxe, la kinonia. Pourtant, cette unité, cette communion a des ratés. Le Concile orthodoxe de juin 2016 en Crète a montré que malgré ce qui unit, il y a des choses qui divisent. La cause principale, c'est ce que l'on appelle le philétisme. Un mot un peu savant, mais je vous avais compris. Le philétisme, c'est le nationalisme ecclésial. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit avant sur la naissance de ces églises autocéphales, on comprend un peu mieux comment est né ce nationalisme. C'est la conséquence, en fait, de la solidarité de l'Église avec son peuple. Et cette solidarité a un aspect positif. L'Église prend en charge un peuple et lui donne une culture religieuse, une identité spirituelle, elle protège cette identité. Et je vous donne un exemple. Entre 1453 et 1830, pendant presque trois siècles et demi, le peuple grec a été sous la domination ottomane, turc, musulman. L'Église a contribué à protéger la religion, la langue et la culture du peuple. Et je crois qu'on pourrait faire une remarque un peu semblable pour la langue et la culture serbe. Le côté négatif, c'est que peu à peu, on confond le peuple et le peuple de Dieu. On lie très fortement l'Église à la nation. Et quand une nation devient un État politique, cette union est encore plus dangereuse. Chaque Église indépendante tend à se fermer sur elle-même, à se suffire à elle-même. Chaque Église autocéphale devient, si j'ose dire, autologale. C'est-à-dire, elle parle d'elle-même, pour elle-même, défendant ses propres intérêts ou les intérêts de la nation. Or, en 1872, à Constantinople, un concile a vivement condamné cette confusion, c'est-à-dire le philétisme, comme le plus grand danger pour l'unité de l'Église. Et dans la diaspora orthodoxe, où je suis né orthodoxe dans cette diaspora, on sent cela encore plus fortement. Et chaque église autocéphale, comme on m'a dit, de Russie, de Serbie, etc., a sa diaspora avec ses évêques, ses prêtres, ses fidèles, ses institutions. Et le résultat est une forte compartimentation, on peut utiliser le mot balkanisation de l'Église. En Suisse, sur les, il y a environ 150 000 orthodoxes, dont à peu près la moitié est de Serbes. La communauté serbe est la plus importante. En Suisse, il y a 6 juridictions pour ces 150 000 orthodoxes. À Paris, il y a 7 évêques orthodoxes. Or, si on est très attaché aux règles des conciles, il faut se souvenir qu'à part les tout premiers conciles, même le premier, 325, on a décidé qu'il n'y ait pas plus d'un évêque par ville. Pourquoi cela? Ce n'est pas un problème, comment il faut dire, de gestion des ressources du personnel humain ou religieux. C'est en fait pour signaler l'unité eucharistique de l'Église en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce qu'est l'Église locale. Donc nous sommes évidemment là en contradiction. Donc le grand défi aujourd'hui pour l'Église orthodoxe est de réaliser vraiment son ecclésiologie eucharistique, son ecclésiologie de communion, en un mot son unité. Et pour cela, il faut combattre le diabolus in ecclesia, le diable dans l'Église, c'est-à-dire l'esprit de division, le filétisme. Mais regardons maintenant l'attitude, parce que c'est probablement peut-être cela qui nous intéresse le plus, l'attitude écuménique, comme on dit, de l'Église orthodoxe, dans ses relations avec les autres églises, toujours sous l'angle de ce dialogue que j'ai placé au début de mon intervention. C'est vrai que très souvent, dans les prières et les rencontres écuméniques, les orthodoxes sont absents. Je ne dis pas partout. Il y a des prêtres beaucoup plus positifs, il y a des communautés plus positives, mais enfin, je sais d'expérience, et j'en ai souffert souvent, et que les orthodoxes sont souvent absents. Alors, on en tire la conclusion que l'Église orthodoxe n'est pas favorable à l'écuménisme. Et cela est vrai. Si on comprend l'écuménisme comme une attitude diplomatique qui exclut les sujets qui fâchent, comme une structure institutionnelle qui encadrerait les églises, comme l'acceptation de concessions sur des points essentiels, comme la recherche du plus petit dénominateur commun, ou comme le souci d'une unité minimale qui appauvrirait à la fois l'Église et les églises. Et face à cet écuménisme, les oppositions orthodoxes sont nombreuses. Elles viennent d'églises, d'évêques, de théologiens, de monastères, mais aussi du peuple des croyants. Pour eux, l'écuménisme, cet écuménisme-là, ils l'appellent la panhérésie, l'hérésie totale. Oui, fort, vraiment trop fort. Mais je dois dire que dans une certaine mesure, moi qui ne suis pas du tout du bord des ultra-orthodoxes, dans une certaine mesure, je comprends ces raisons. C'est d'ailleurs, comme d'autres artisans de l'unité de l'Église, d'évêques, je n'aime pas le mot écuménisme. Écuménisme. Et en principe, je ne l'emploie pas. Mais je crois au dialogue interchrétien, au dialogue écuménique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et là, Je suis en bonne compagnie, celle du patriarche Bartholomée, de Constantinople, d'autres patriarches et de nombreux évêques, de théologiens et de fidèles. Et je découvre aussi dans l'histoire des tentatives de dialogue. Alors, je voudrais en citer une parce que j'ai creusé un peu cette question ces derniers temps, j'ai trouvé ça très très beau. C'est quelque chose qui se passe au XVIe siècle. C'est, j'allais dire, on fête la réforme. On commémore la réforme, pour être plus. Voilà. Mais il y a un épisode que beaucoup de gens ignorent. Au XVIe siècle, donc le premier siècle de la réforme, des théologiens de Wittenberg et de Tübingen, dont le grand Mélenchon, ont échangé avec le patriarche de Constantinople. Une abondante correspondance pour tenter une sorte d'alliance luthéro-orthodoxe. Et ces théologiens ont même traduit en grec, à l'intention du patriarche, la fameuse confession d'Augsbourg, qui est alors la version grecque, donc le titre Confessio Augustana Graeca, pour lui exposer la pensée luthérienne. Alors, pour différentes raisons, le dialogue a tourné court. Mais, le dernier mot de la dernière lettre du patriarche Jérémie de Constantinople, qui dit en gros aux théologiens de Tübingen et Wittenberg, laissez-nous tranquilles maintenant. Vous savez, ils étaient sous la domination ottomane à ce moment-là. Ils devaient lutter contre cela. Alors il dit, laissez-nous tranquilles, ne nous parlez plus de dogme, mais écrivez-nous simplement par amitié. Et c'est le dernier mot. Et moi, je trouve ça magnifique. Parce qu'il n'y a pas d'unité sans amitié. S'il n'y a pas une amitié entre les artisans du dialogue œcuménique, il n'y a pas vraiment d'unité. Alors, on peut rappeler aussi, pour revenir à une période plus récente, parce que c'est bien beau de célébrer le passé, que dès le début du XXe siècle, en janvier 1920, dans une encyclique adressée aux Églises du Christ partout dans le monde, le patriarcat de Constantinople, habité des chrétiens, a entré en dialogue en formant une kinonia, une communion d'Église à l'instar de la Société des Nations qui venait de se créer à Genève. Et en 1948, ce même patriarcat de Constantinople fut un des membres fondateurs du Conseil œcuménique des Églises, et il est toujours actif, et toutes les Églises sont entrées dans le Conseil œcuménique des Églises, même si deux ont fait des psychodrames parfois, c'est l'Église de Géorgie et l'Église de Bulgarie, qui sont retirées à un certain moment. Et plusieurs évêques et théologiens orthodoxes jouent un rôle important dans la principale commission théologique du Conseil œcuménique des Églises, foi et constitution. Je ne veux pas citer évidemment tous les dialogues multilatéraux et bilatéraux auxquels participent les Églises orthodoxes pour répondre un peu à une question qui a été posée tout à l'heure. En général, les Églises orthodoxes préfèrent des dialogues bilatéraux avec les protestants, les luthériens, les anglicans, les vieux catholiques. La commission de dialogue la plus active et la plus difficile est certainement la commission de dialogue avec l'Église catholique romaine, qui actuellement travaille sur un sujet brûlant, la primauté et la synodalité dans l'Église. Au plan suisse, le père Stracco l'a dit tout à l'heure, les orthodoxes participent à la commission, à la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse, en tout cas les patriarcats de Constantinople, de Roumanie et de Serbie. Et puis, il faut quand même faire référence à la réflexion que le Concile de Crète a fait. Au Concile de Crète, les églises orthodoxes se sont d'accord sur la nécessité d'avoir des points de vue communs sur les thèmes, les méthodes et le niveau de collaboration œcuménique. Et il y a un document conciliaire qui porte sur les relations de l'Église orthodoxe avec l'ensemble du monde chrétien, et ce document souligne que le dialogue est une condition pour tout le, une obligation pardon, pour tout le monde chrétien. Et j'ai compté, le document emploie 40 fois le mot dialogue. C'est bien, c'est normal, dans un document dans la première version est grec, le mot dialogue, c'est évidemment un mot grec. Mais enfin, il faut le faire quand même. Et puis, il déclare, ce document déclare le but de ce dialogue. C'est, alors je cite le document, il est évident qu'au cours des dialogues théologiques, le but poursuivi par tous est le même, c'est-à-dire le rétablissement de l'unité dans la vraie foi et dans l'amour. Le rétablissement de l'unité dans la vraie foi et dans l'amour. Le groupe là. Il reste néanmoins que, alors ça c'est une nuance intéressante, il reste néanmoins que les divergences théologiques et ecclésiologiques qui se présentent sur la voie de la réalisation de ce but au plan orthodoxe, donc il y a ces différences, et il faut en tenir compte. Il y a une spécificité des problèmes, et chaque dialogue bilatéral présuppose une différenciation dans la méthodologie. Ça peut paraître un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi unique du dialogue. Il faut toujours s'adapter aux personnes avec qui on dialogue. Différence dans la manière de procéder, jamais de différence dans le but. Alors, si l'on pense que, comme disait le patriarche Bartholomée, que le dialogue est de l'être même de Dieu, il faut ajouter qu'il ne suffit pas de parler, il faut témoigner. Je cite encore le Concile de Crète, l'Église orthodoxe a une conscience commune de la nécessité du dialogue théologique interchrétien. C'est pourquoi elle juge indispensable que le dialogue aille de pair avec le témoignage dans le monde et des actions, le témoignage dans le monde, le dialogue et des actions qui expriment la joie ineffable de l'Évangile, excluant tout acte de prosélytisme, d'uniatisme ou autre action provocante d'antagonisme confessionnel. Alors j'aimerais, pour terminer, aborder quelques difficultés qui se présentent du point de vue orthodoxe, dont les orthodoxes pourraient être jugés responsables. Bon, il y a des difficultés dans le dialogue, on dit souvent, mais les orthodoxes ont un petit peu tendance à voir ces difficultés toujours venir des autres. Des autres églises, de leur manière de faire la théologie, de leur conception morale. Là, il y a un contentieux énorme. De l'organisation des pratiques de ces églises. Alors, c'est vrai, il faut reconnaître que ces difficultés sont plus grandes dans le dialogue entre les églises orthodoxes et les églises de la Réforme. Il y a quand même, sur un tas de choses, une convergence de point de vue entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe que l'on ne trouve pas tout à fait dans le dialogue avec les églises de la Réforme. Mais, certains obstacles viennent des orthodoxes eux-mêmes, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Je vais en citer un ou deux autres, quatre, cinq, rapidement. D'abord, premier, la méconnaissance de l'autre. Je suis frappé, vous savez, je ne vous ai pas dit, mais moi j'ai un passé catholique. Je suis entré dans l'Église orthodoxe, j'ai fréquenté l'Église orthodoxe depuis l'âge de 17 ans, mais je suis entré dans l'Église orthodoxe que... 40, 47 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu une belle culture catholique parce que j'étais très pratiquant, très actif, j'étais bien formé, Donc je peux le dire ça. Il y a une méconnaissance chez les orthodoxes et les autres. Je dis pas, je ne généralise pas, mais chez beaucoup. Beaucoup d'orthodoxes croient connaître les autres, mais en réalité, ils les voient avec leurs propres lunettes et des lunettes déformantes, avec les préjugés qui sont hérités de leur éducation, de leur formation, de leur manque, de formation religieuse, de leur catéchisme élémentaire, etc. Donc, ils ne cherchent pas vraiment à découvrir l'autre dans sa vérité. Deuxièmement, la fidélité à la tradition, à la peur du changement. En soi, la tradition est quelque chose de fondamental et de grand. Parce que la tradition, attention, c'est la transmission vivante, continue, du trésor de la foi. C'est une parole fidèle, capable de parler à des peuples nouveaux et de les convertir au peuple de Dieu. C'est donc un phénomène dynamique. Or, pour beaucoup d'orthodoxes, la tradition est un trésor fermé, intouchable, sans évolution possible. Et tout changement de la tradition, même tout petit changement de la tradition, semble menacer la survie de la tradition. De plus, la tradition est souvent confondue avec les traditions. C'est un peu facile de faire le jeu. La tradition avec un grand D, et puis les traditions avec un D minuscule. Mais les traditions, vous savez bien, c'est des traditions, c'est ces habitudes, souvent très belles, très bonnes, qui sont nées de circonstances particulières et d'époques particulières, mais auxquelles on ne peut pas donner la valeur qu'on donne à la tradition. Troisièmement, le fondamentalisme. On est dans la suite. Le fondamentaliste, et il y en a partout, se croit pouvoir protéger son identité contre les menaces extérieures, en considérant comme absolu tous les aspects de sa religion, sans aucun esprit critique. Et j'ai trouvé dans les documents du Concile de Crète une condamnation très vive du fondamentalisme, je vais vous la lire, et pas seulement du fondamentalisme des autres, mais aussi du fondamentalisme orthodoxe. Parce que les évêques savent très bien que dans leur pays, ils sont vissés par ces fondamentalistes très souvent. La preuve, c'est que tout de suite après le concile de Crète, certains évêques qui ont signé des documents ont été attaqués très violemment par des moines, des théologiens, etc., de leur pays. Alors voilà, je vais vous lire la condamnation de ce fondamentalisme. Donc le fondamentalisme, d'abord, considère comme absolu tous les aspects de sa religion sans esprit critique. Et le Concile de Crète dit, en tant que celle que la connaissance n'éclaire pas, ça c'est une citation de la lettre aux Romains, en tant que celle que la connaissance n'éclaire pas, le fondamentalisme constitue une manifestation mortifère de religiosité. La véritable foi chrétienne, calquée sur la croix du Seigneur, se sacrifie sans sacrifier. C'est pourquoi elle est le juge inexorable du fondamentalisme, quelle qu'en soit l'origine. Fin de citation. Quatrième élément, l'absence de hiérarchisation des vérités. Si l'on croit que les affirmations et les pratiques du son d'église ont toutes le même poids, la même nécessité, il est difficile d'imaginer que l'unité de l'église soit possible avec tant de diversité. Mais, donc, il faut diversifier les choses, mais pour être honnête, il faut que tout le monde se pose la question, chez les partisans de la diversité aussi, que tout le monde se pose la question, jusqu'où peut-on aller dans la diversité sans blesser l'unité? Et ça, c'est une question à laquelle tous les chrétiens doivent répondre ensemble. Et le dernier défaut, la dernière difficulté provoquée par les orthodoxes, quelque chose qui me fait souvent très mal, c'est l'autosuffisance. Beaucoup d'orthodoxes, l'orthodoxe est conscient que son Église lui offre de grands cadeaux. Et étant entré tard dans l'orthodoxie, je suis vraiment conscient que l'Église m'offre de grands cadeaux. Il croit que sa tradition est si riche, et c'est là qu'il tombe en danger, qu'il n'a pas besoin des trésors des autres. Il est prêt à donner, à partager, mais il ne croit pas nécessaire ni utile de recevoir quelque chose des autres. Or, il lui reste à faire l'expérience de l'échange de dons, de reconnaître en toute humilité, pardonnez-moi d'abaisser la formule, de reconnaître en toute humilité qu'il y a autant de bonheur à recevoir qu'à donner. Voilà, j'ai essayé de vous montrer que l'Église orthodoxe a deux tâches à entreprendre. Perfectionner, concrétiser son unité interne, faire en sorte que sa pratique corresponde à sa théorie et poursuivre avec honnêteté et courage le combat pour l'unité avec les autres Églises, dans la charité et la vérité. Et malgré ces difficultés, le Concile de Crète en juin 2016 s'est appuyé à cette double tâche. Le patriarche de Constantinople, en 1902, en était conscient. Le renouveau de la communion entre les églises orthodoxes dispersées est indissociable, disait-il, de la restauration de l'unité entre toutes les églises. Et dans les deux cas, l'Église, les églises, doivent construire une véritable commune. C'est tout ce que leur demande et nous demande le Christ au moment où il va vers son sacrifice pour la vie du monde, quand il prie son Père que tous soient un pour que le monde croie. Merci.